Un historien écrivait avec lyrisme à propos des fantaisies, d'ailleurs tout à fait hypothétiques, de Tibère à Capri. Dans sa vieillesse, par contre, sa sexualité sembla s'épanouir en fleurs nouvelles sous l'aiguillon de la cruauté. Il n'y avait là-dessous, en réalité, que le désir de ne plus se priver de rien dans ce monde morne, sans Dieu et sans homme, de ne s'interdire aucune satisfaction, aucun chatouillement, dût-on pour l'obtenir sacrifier des vies humaines. Comme l'imagination de ce pédant, il s'agit de Tibère, de ce pédant de la luxure n'était dirigée par aucune sensualité, il finit par s'égarer sur des routes singulières, et les rochers et les bosquets de Capri furent témoins de scènes vraiment grotesques. Je ne suis pas sûr que cette façon de caractériser le monde romain à l'aube de l'Empire comme un monde morne et sans Dieu ne soit pas anachronique et que notre historien ne se soit pas laissé influencer plus ou moins consciemment par des formules nietzschéennes propres à notre époque. Mais il est certain que l'Empire marque, sur le plan religieux, pour Rome, une période de crise. Jean Beaujeu, quels sont les éléments de cette crise ?
Moi non plus, je ne suis pas sûr que l'historien ait eu entièrement raison en ce qui concerne la personnalité de Tibère. Il est possible que cette reconstitution psychologique soit vraie. Il me paraît cependant que, comme témoignage d'une crise morale et religieuse, ces quelques lignes sont intéressantes. Nous connaissons bien ce que peut être le désarroi provoqué dans une partie de la société, sinon dans une société tout entière, par la mise en question de ses valeurs, de ses traditions, de ses habitudes et d'une certaine absence de l'absolu ou de l'enthousiasme, qu'il soit politique, national, moral, religieux, et qui peut conduire à des excès, à des détresses comme celle-là. La crise religieuse que vous évoquez a commencé depuis un certain temps déjà, dès le second siècle avant notre ère. On en voit des signes extrêmement nets et cette crise n'a fait qu'être accentuée par la crise politique des guerres civiles et que se développait à l'époque impériale. Ses origines, elles tiennent avant tout à la dissolution des vieux liens qui attachaient étroitement les Romains de la République à leur dieu, à leur pratique religieuse, dissolution sous l'effet de la conquête romaine et sous l'effet d'idées nouvelles venues de la philosophie grecque ou venues de religions extérieures à Rome. Au 1er siècle de notre ère, on voit apparaître des cultes nouveaux, on voit la crise aussi prendre une nouvelle dimension.
Oui, cette crise, on en trouve déjà trace sous la République. Je crois que les Romains avaient emprunté certains cultes orientaux, mais ils les avaient empruntés tout en les neutralisant en quelque sorte, parce qu'ils étaient contraires à la mentalité romaine, disons à l'idéologie de Rome. Quels étaient ces cultes ?
Eh bien oui, vous parlez, je pense, surtout du culte de Cybèle que les Romains étaient allés chercher en Asie Mineure, lieu de l'antique Troie dont ils prétendaient descendre. Et ce culte de Cybèle avait été introduit à l'occasion de la terrible crise de la Deuxième Guerre punique dans les toutes dernières années du IIIe siècle avant notre ère. Et en effet, ce culte était desservi par des prêtres émasculés qui effarouchaient considérablement la mentalité romaine. On les avait donc soigneusement enfermés dans un petit couvent au sommet du mont Palatin, en plein cœur de Rome, et si les Romains rendaient un culte à la déesse Cybèle, qui était représentée, en dehors de son expression brute sous la forme d'une pierre noire, qui était représentée par les artistes comme une grande dame vénérable, mais elle avait à côté d'elle aussi un dieu associé, Attis, qui passait pour être à la fois son fils et son époux, et celui-là, on l'avait mis soigneusement de côté, avec les Galles, ses prêtres émasculé. De fait, l'introduction de cette divinité orientale à une date qui nous apparaît comme très éloignée, n'est-ce pas, puisque nous sommes encore à l'époque où la République est bien vivante, répondait à des préoccupations d'ordre proprement religieux, elle répondait aussi à des préoccupations d'ordre politique, puisqu'il s'agissait de mettre dans son camp ou de consolider dans son camp certaines puissances d'Orient, de l'Orient hellénistique. Cette introduction du culte de Cybèle n'a été qu'un fait politique pendant de longues années. Et grâce aux précautions prises par l'État, justement, la diffusion de ce culte dans la masse, dans le peuple, a été entravée.
Pourquoi un dieu comme Attis était-il particulièrement scandaleux pour les Romains ?
Bien, quand je vous ai dit qu'il passait pour être à la fois le fils et le mari de Cybèle, c'est déjà une raison, puisque cela choquait considérablement les règles morales des Romains. D'autre part, les rites qui l'entouraient étaient aussi considérés comme scandaleux, notamment ce phénomène de la castration et volontaire que s'infligeaient les prêtres eux-mêmes. D'autre part, les idées qui étaient sous-jacentes, idées notamment de la réviviscence biologique annuelle symbolisée par ce dieu, une sorte d'effervescence sentimentale et sensuelle qui était un élément essentiel de ce culte, étaient encore beaucoup trop étrangers à la mentalité romaine pour pouvoir être acceptés par les autorités à cette époque-là. Un des faits les plus remarquables de l'histoire politique du 1er siècle de notre ère a été précisément l'intervention de l'empereur Claude, qui a autorisé, vers les années 40 de notre ère, la célébration publique du rituel qu'on appelle le rituel du mois de mars, qui consistait à célébrer tour à tour la mort de ce jeune dieu Attis, symbolisant la mort de la végétation à l'entrée de l'hiver, et sa renaissance deux jours plus tard, avec explosion de joie publique. C'était la fête des Hilaria, célébrée le 25 mars. Il y a là l'apparition d'un phénomène religieux courant en Orient et dans les religions d'Orient, mais qui, à Rome, a été un fait considérable. Ça a été la reconnaissance officielle d'expression du sentiment religieux qui, jusqu'alors, avait été soigneusement étouffé par l'autorité politique.
Donc on peut dire que la vieille religion romaine, qui était faite de rigueur et d'un certain sentiment de dépendance vis-à-vis des dieux, mais d'un sentiment très utilitaire, est morte et qu'on n'y croit plus, en somme.
Et écoutez, je pense qu'il faudrait introduire peut-être certains distinguos. Il est certain que la religion romaine officielle était encombrée de rites dont les Romains eux-mêmes ne comprenaient plus la signification et qu'ils répétaient d'une manière un peu mécanique au nom de la tradition, ce mos maiorum qui a tenu une telle importance dans la mentalité romaine, et d'autre part aussi avec le sentiment explicite que ces dieux sur lesquels on n'avait pas de théologie très fixe avaient du moins eu le mérite d'assurer la grandeur, l'essor de Rome, et que par conséquent, il ne fallait pas y toucher. Si bien que l'évolution religieuse de Rome, qui a été énorme, prodigieuse au cours de son histoire, et surtout au cours de l'histoire impériale, a toujours respecté cette façade de la liturgie officielle qui a été observée jusqu'au Bas-Empire. En revanche, ce qui est nouveau, ce sont des besoins religieux, des élans qui, en effet, étaient étrangers à la religion romaine primitive. Les dieux traditionnels ont continué à recevoir un culte, qu'il s'agisse de dieux présidents à certaines fonctions déterminées, fonctions militaires, fonctions agricoles, c'était les deux vieilles fonctions auxquelles répondaient les dieux de la Rome républicaine et même de la Rome royale, qu'il s'agisse de cultes locaux célèbres, culte de la fortune de Préneste, culte d'Hercule à Tibur, tous ces cultes-là ont continué à être l'objet de vénérations suivies. Mais à côté de ces cultes traditionnels, d'autres sont venus les concurrencer parce qu'ils permettaient à l'individu une exaltation religieuse, un contact personnel, on peut dire ontologique, avec la divinité, une participation de l'âme entière, de toute la conscience, de toute la sensibilité à la vie religieuse, ce qui était absent de la religion romaine primitive, qui était certainement beaucoup plus froide. La grande période de la diffusion, de l'expansion des cultes orientaux, on la trouve surtout au second et au troisième siècle de notre ère. Néanmoins, dès le premier siècle, on voit monter à côté d'une divinité comme Cybèle, qui avait des attaches avec la tradition romaine et avec l'histoire primitive de Rome, on voit apparaître et monter d'autres divinités. Ça a été le cas en particulier du culte des divinités d'Alexandrie, qui avait été fondé, ou plus exactement relancé, dès après la conquête d'Alexandre, par les premier souverain d'Égypte de la dynastie des Lagides, le premier des Ptolémées, a organisé sur de nouvelles bases et en fonction de nouvelles idées ce culte qui associait Isis, Osiris sous le nom de Sérapis et leur fils Horus ou Harpocrate. À Rome, on constate par des textes que ces divinités étaient connues, avaient quelques adeptes dès le début du second siècle avant notre ère. Mais ce culte s'est heurté à des difficultés d'ordre politique, et en particulier à la rivalité entre Octave Auguste et Antoine a fait que les cultes égyptiens ont été englobés dans le combat mené par Octave contre son rival Antoine, associé à la reine Cléopâtre. Et les cultes égyptiens, au nom de la guerre et des impératifs de la guerre, ont été condamnés et exclus par Octave Auguste. Son successeur Tibère en a fait autant, mais Caligula, qui a régné quelques années entre Tibère et Claude, a, lui, permis et probablement même favorisé la construction du premier grand sanctuaire d'Isis au Champ de Mars, à peu près là où se trouve actuellement l'église Santa Maria della Minerva. Cet Iséum, ce temple d'Isis, a été ensuite développé, orné, dans les dernières années du 1er siècle de notre ère, par l'empereur Domitien, et est devenu un des plus grands sanctuaires de Rome.
Quelle est la place du christianisme au 1er siècle de notre ère dans le monde romain ?
Question difficile. Dans le monde romain, cela exigerait de longs développements. Vous savez que le christianisme s'est répandu d'abord dans certaines provinces orientales de l'Empire, de l'Orient hellénique. Si vous voulez, parlons surtout de ce qui a pu se passer en Occident. On est mal renseigné. La tradition chrétienne fait venir l'apôtre Pierre à Rome. Les fouilles opérées sous la basilique de Saint-Pierre il y a une trentaine d'années n'ont ni confirmé ni infirmé cette croyance, cette tradition qui, après tout, n'a rien d'extraordinaire. La présence de l'apôtre Paul, elle, paraît mieux assurée. Ce qui est certain, c'est qu'on voit apparaître un groupe de chrétiens constitués, reconnus comme tels, en l'an 64 de notre ère, lors du fameux incendie de Rome, qu'on a prétendu allumer par Néron lui-même, ce qui est peu probable, que Néron, poussé par son entourage, a prétendu, lui, allumé par le groupe des chrétiens, ce qui a provoqué la première petite persécution connue contre les chrétiens, petite par le nombre de ceux qu'elle a visé, et qui a abouti à ce que les chrétiens en tant que tels ont été rendus responsables de cet incendie et qu'on en a brûlé un certain nombre. Par conséquent, ce fait qui nous est garanti par des textes concordants et sûrs, en particulier plusieurs pages célèbres de Tacite dans les Annales, prouve que cette année-là, il y avait à Rome un groupe de chrétiens bien constitués et vivants. Le christianisme, comme vous le savez, n'a pas joué un rôle de premier plan dans la vie religieuse de l'Empire jusque dans la deuxième moitié du second siècle de notre ère. C'est à ce moment-là vraiment qu'il s'affirme comme une force religieuse considérable.
Peut-on chiffrer cette communauté chrétienne ?
C'est très difficile. Même les auteurs anciens nous ont donné peu de chiffres. Il y a un chiffre proposé par Sulpice Sévère, auteur du Bas-Empire, le 4e siècle de notre ère, qui, si je me rappelle bien, parle de 3 ou 4 000 personnes ayant été brûlées par Néron, ce qui paraît beaucoup. Il s'agit plus probablement de quelques centaines, tout au plus. Mais il y en a d'autres qui ont certainement échappé à la persécution et au supplice. Et ce nombre de quelques mille paraît de l'ordre du vraisemblable.
Est-ce qu'à côté de cette communauté chrétienne, il y a une communauté juive importante à Rome ?
À Rome, oui, certes. On sait que les Juifs y étaient nombreux, ils ont laissé des traces de leur présence. On a retrouvé des catacombes juives à Rome et à Naples avec des inscriptions très précises qui attestent leur nombre. Leur pouvoir aussi, on sait qu'à de certaines périodes, les Juifs avaient des amis à la cour impériale elle-même. Poppée, la deuxième femme un peu scandaleuse de Néron, passait pour une amie des Juifs. C'est surtout en Orient et plus particulièrement à Alexandrie qu'il y avait une diaspora juive considérable. Et au 1er siècle de notre ère, on voit apparaître des œuvres d'auteurs juifs qui ont tenu une très grande place dans l'histoire de la pensée. Un Philon d'Alexandrie, un Flavius Joseph ont été des penseurs et des écrivains de toute première importance et qui ont joué également un rôle politique, puisqu'on sait que Flavius Joseph, dont le nom même indique qu'il a été affranchi et par conséquent promu socialement par les empereurs flaviens, plus particulièrement Vespasien, un Philon d'Alexandrie est venu à Rome à la tête d'une délégation des Alexandrins lorsque Caligula a prétendu imposer le culte de sa personne et de son image à l'intérieur même des synagogues. À ce moment-là, ce grand personnage de la pensée juive est venu à Rome où il a trouvé l'appui de ses coreligionnaires qui constituaient le ghetto de Rome et il a eu accès auprès de l'empereur. Donc on voit une vitalité de la communauté juive à ce moment-là dans l'Empire tout entier avec, comme vous le savez aussi, une vitalité particulière mais alors tournée contre Rome des Juifs de Palestine elle-même, d'où les soulèvements de 67-68 se soldant par la prise de Jérusalem et la destruction du Temple et ensuite surtout le terrible soulèvement des années 134-135.